Voilà, Jean-Charles a fait les présentations. Donc, Elisabeth Gors, qui est professeure des écoles, maître formateur à l'école André Galland à Nîmes. Et moi-même, Aldo Genaï, formateur de français à la faculté d'éducation de Montpellier, sur le site de Nîmes également. Alors, je mets mon petit chronomètre pour essayer de respecter le temps qui nous est imparti, d'autant qu'on a des problèmes techniques qu'on va essayer de régler. Voilà. Donc, l'expérience autour de laquelle nous allons échanger s'inscrit dans le cadre d'un GRIF. Alors, le GRIF, c'est un groupe recherche, innovation, formation, à la faculté d'éducation de Montpellier, qui a été piloté par Brigitte Louichon, professeure à la ville de Montpellier également. Alors là, pour qu'il n'y ait pas de tromperie sur la marchandise, la question de recherche initiale, en fait, avait porté pas à proprement parler sur la logique de projet interdisciplinaire ou sur le parcours d'éducation artistique et culturelle, mais plus spécifiquement sur une question qui peut paraître très très disciplinaire, en l'occurrence la question de l'enseignement de la littérature, et en particulier de la littérature patrimoniale, à l'école, mais au collège et au lycée également, puisqu'on avait des collègues dans le cadre de ce GRIF qui enseignent au lycée. Donc, alors, moi je suis allé donc dans la classe d'Elisabeth, et il s'est avéré, même si au début la question était assez disciplinaire, il s'est avéré que malgré tout, ça pouvait s'inscrire tout à fait dans une démarche, dans une logique de projet, parce qu'il y avait une dimension transdisciplinaire, parce que cette action mobilisait un texte du patrimoine, et puis également des adaptations iconographiques et cinématographiques du texte en question. Parce qu'elle engageait les élèves dans un parcours de lecture et d'écriture multimodale, une littératie multimodale, c'est-à-dire la faculté à lire et à produire des textes qui mettent en jeu des codes variés, textuels, iconographiques, audiovisuels, etc. Et puis ce sont les élèves eux-mêmes qui, au cours de l'action, lui ont donné toute sa mesure de projet en décidant eux-mêmes de la production, en fait des productions, sur lesquelles ça allait déboucher, en l'occurrence, des adaptations, leur propre adaptation personnelle de cette œuvre du patrimoine qui nous a accompagnés tout au long de... depuis le début de l'année, en fait, pratiquement. Voilà, je vais essayer d'être clair malgré la tournée des bouchons que m'a fait accomplir hier soir Elisabeth. Si, c'est vrai. Allez, je présente rapidement le cadre théorique sur lequel on s'est appuyé pour mener ce travail. Voilà, donc c'est dans le sillage des travaux récents de la didactique de la littérature sur les textes du patrimoine en particulier, auxquels les textes officiels donnent une actualité forte. C'est un objet finalement d'enseignement relativement nouveau, aussi paradoxal que ça puisse paraître, la littérature patrimoniale. Donc, c'est un héritage, qui est le produit d'une construction socio-historique, qui est l'objet d'un double mouvement de conservation ou de réception, de transmission. C'est un héritage culturel qui nous a été transmis, à charge pour nous de le conserver à notre tour, de le reconfigurer et de le transmettre. Et puis, l'œuvre patrimoniale, elle appartient au passé, par son contexte de production. Mais c'est une œuvre dont la réception continue à se faire au présent. Et c'est ce qui nous intéressait beaucoup, cette question de la présence, de l'actualité de ces textes un peu poussiéreux, ou a priori assez éloignés de l'univers de référence des élèves. Et cette présence, elle se manifeste par l'expression un peu ésotérique, les objets sémiotiques secondaires, ou les OSS pour les intimes. On va se contenter de parler peut-être d'adaptation, c'est-à-dire que l'œuvre patrimoniale, elle continue d'exister au présent parce qu'elle donne lieu à quantité d'adaptations en bande dessinée, en dessin animé, en film, etc. Voilà. Alors du coup, les questions de recherche étaient les suivantes. Comment on peut penser une didactique des œuvres patrimoniales qui interroge le phénomène et la notion même de patrimonialité, c'est-à-dire qu'il fasse percevoir aux élèves ce qui se joue dans le patrimoine et qu'il leur fasse éprouver ce processus de conservation, transmission. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas tant d'étudier une œuvre du patrimoine en particulier que la patrimonialité dans ses œuvres ou à l'œuvre en quelque sorte. Quelle autre question, quel usage on peut faire de ces adaptations, et en particulier des adaptations cinématographiques? Comment on peut les intégrer pleinement en classe? Alors non pas pour à titre récréatif, hein, montrer un Walt Disney pour récompenser les élèves d'avoir bien travaillé, d'avoir bien accepté de lire l'œuvre, mais véritablement comme pour nourrir la réflexion sur ces œuvres. Et puis, et c'était peut-être finalement la question la plus importante, comment on peut actualiser la réception de ces œuvres, hein, c'est-à-dire comment la faire parler au présent pour nos élèves? Comment donner du sens à sa lecture et un sens qui ne soit pas purement la réponse à une injonction institutionnelle, hein, scolaire. Voilà. Et la question du sens dans la logique du projet me paraît centrale. Rapidement, le corpus. Bon, voilà, on a retenu le conte de la Belle et la Bête, hein, pour plusieurs raisons. D'une part, il figure dans les listes de références préconisées, d'ouvrages préconisés pour le cycle 3. C'est une œuvre qui a suscité pas mal d'adaptations. Donc, ça, on va dire que sa charge patrimoniale est très forte. Et parmi ces œuvres, certaines sont très bien connues des familles et des élèves. Donc celle de Cocteau, celle réalisée pour les studios Disney, et puis la dernière en date, hein, celle de Christophe Gans. Donc la symphonie qu'on a essayé d'orchestrer en classe avec Elisabeth, donc dans sa classe de CM2, comportait trois mouvements principaux. Donc la première action, le premier mouvement, en fait, consistait à faire éprouver cette patrimonialité, c'est-à-dire le fait que l'œuvre du patrimoine, elle circule, elle se transmet, et elle génère quantité d'œuvres qui continuent d'être reçues au présent. Alors du coup, on a réfléchi à un dispositif qui permettait de faire éprouver cela. Et le premier temps, ça a été une enquête, c'est-à-dire qu'on a élaboré, hein, avec la participation active des élèves, un questionnaire en classe, questionnaire qui avait pour but un peu de faire percevoir la capacité de circulation de l'œuvre patrimoniale, et en particulier dans l'espace intergénérationnel. Alors du coup, le questionnaire élaboré en classe comportait des questions suivantes qui s'appuient sur les souvenirs de lecture, hein, de cette œuvre. Donc, connais-tu la Belle et la Bête? Connais-tu les personnages? Est-ce que tu peux résumer l'histoire en quelques mots? Est-ce que tu connais son auteur? Est-ce que tu peux situer sa date de composition dans le temps, hein? Quelle en est la morale? Comment as-tu connu cette histoire? Alors, comment, mais dans quelles circonstances? Quand? Grâce à qui? Est-ce qu'il posait vraiment la question de la transmission et de ses courroies? Est-ce que tu aimes cette histoire et pourquoi? Alors, une fois que les élèves ont fait ce questionnaire avec l'aide d'Elisabeth en classe, ils l'ont rapporté chez eux, et le soir, ils ont soumis leurs parents à la question, et le lendemain, ou deux, trois jours après, parce que c'était un vendredi, donc voilà, ils ont eu tout le week-end pour y répondre. Et la semaine d'après, ils sont revenus en classe et nous avons dépouillé avec eux les réponses apportées au questionnaire sous la forme d'un petit tableau. Et du coup, on en a tiré les enseignements suivants. Alors, ils ont bien constaté, vu que seuls deux parents sur les 21 ou 22 qui avaient répondu au questionnaire disaient ne pas connaître la Belle et la Bête, ils ont bien constaté que l'œuvre patrimoniale, c'est un héritage commun, hein, dans le... Il y a un bien qui s'est transmis, alors parfois à l'école pour certains parents, et parfois dans le cadre privé également. Ils ont constaté aussi que les biais, les vecteurs par lesquels ils connaissaient qui connaissaient cette œuvre étaient divers et variés. Hein, c'est-à-dire que à la question comment as-tu connu cette œuvre, beaucoup de parents répondent bien sûr par le film, hein, soit le film de Cocteau, soit le dessin animé. Les élèves de leur côté mentionnaient également des séries télévisées qui mettent en scène les personnages des contes, dont La Belle et la Bête, et la comédie musicale également. Voilà, donc il y a quantité de discours seconds ou d'OSS ou d'adaptations qui sont générés par l'œuvre du patrimoine. Et puis on constate également que même si l'œuvre est bien connue, enfin si le titre est bien connu, en revanche, pour ce qui est de l'identité de l'auteur, qui est souvent attribuée à Perrault ou à Grimm, hein, mais on ne prête qu'aux riches, on ne sait pas trop donc quel est l'auteur, on ne sait pas trop non plus quelle est la date de publication qui s'échelonne selon les réponses au questionnaire entre le XVIe et le XXIe siècle. Mais finalement, ces incertitudes, elles étaient intéressantes parce que elles ont un peu problématisé l'entrée dans l'étude et dans la lecture du conte, parce que les élèves se posaient la question, bien sûr, de savoir ben, finalement quel est l'auteur, finalement ça date de quand, et comme on confrontait les souvenirs de lecture des parents qui sont très divers, se posait également la question de finalement laquelle est la vraie version, hein, donc vraie avec de gros guillemets. Voilà, donc ça problématisait un peu ce questionnaire, problématisait un peu pardon, l'entrée dans la séquence, et puis le côté investigatoire du questionnaire plaisait beaucoup aux élèves. Alors au cours de la deuxième séquence, c'est là qu'on entre vraiment qu'on entre davantage dans le côté pluridisciplinaire ou interdisciplinaire, et que commence à se nouer un dialogue avec d'autres langages artistiques. On a présenté aux élèves, on leur a proposé une première navigation donc entre des objets qui appartiennent à des domaines artistiques différents, à des champs, à des langages différents. Donc dans un premier temps, il s'agissait de comparer quelques représentations, quelques illustrations de la bête, surtout de la bête, dont certaines assez d'illustrateurs assez patrimoniaux eux-mêmes, hein. Et de réfléchir à partir de ces différents choix de représentation. Parce qu'il était évident que selon qu'on fait le choix de représenter la bête sous les traits d'un sanglier, d'un ours, d'un éléphant, d'un lion, selon qu'on la représente comme se déplaçant à quatre pattes ou sur ses deux jambes, mais selon qu'elle a des cornes ou pas, bref, quels que soient les choix opérés, on n'a pas tout à fait affaire à la même bête. Et à la limite, son degré de bestialité ou de monstruosité varie selon les choix iconographiques, hein, réalisés par chaque illustrateur. Donc en fait, avec les élèves, il s'agissait de passer tout d'abord d'une étude des différents codes, hein, mis en œuvre, tout simple relevé des différences, ça c'est l'étayage d'Elisabeth qui l'a permis, à une réflexion sur les implications symboliques de ces choix. Hein. Si c'est un lion, qu'est-ce que ça m'évoque? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça nous dit sur la bête? Si c'est un sanglier, qu'est-ce que... Voilà. Passer du dénoté, quoi, à une réflexion à une interprétation. Alors les élèves, même avant d'être confrontés à ces illustrations, on leur a demandé de représenter leur bête dans leur carnet de lecteurs et de justifier leur représentation. Alors c'était avant, je dis bien avant qu'ils aient vu ces illustrations-là et avant même qu'on soit entré dans l'étude de l'œuvre. Et alors bon, oui, je l'aime bien celui-là. Voilà, ce sont des élèves ni moi, donc je perds mes poils. Il y a le E à la fin. Et ce qu'on constate dans les dessins, c'est que près de la moitié des cas, ce qu'il nous représente, c'est quelque chose qui appartient, enfin qui est inspiré de l'adaptation de Walt Disney. Hein, voilà. Et alors, ce qui est drôle, parce que ça veut dire que ce qu'on appelle donc ces objets sémiotiques secondaires, c'est-à-dire toutes les adaptations auxquelles ont donné lieu les œuvres du patrimoine, dans les connaissances des élèves, mais pas que des élèves, de quantité de leurs parents, en fait, elles sont premières. Hein. Alors par la suite, on a poursuivi ce travail de navigation entre différents langages avec en mobilisant les adaptations cinématographiques. Donc celle de Cocteau, bien sûr, celle de Christophe Gans et celle des studios Disney. Alors, le but n'était pas tant de... Ça aurait pu, hein, ça aurait été intéressant aussi. Le but, c'était pas vraiment de réfléchir ensemble, d'une manière technique, au code, hein, au langage propre à l'art cinématographique. Donc on n'a pas mené de travail sur les échelles de plan, les mouvements de caméra, les cadres, etc. On aurait pu, mais ça n'a pas été fait. Le but, c'était surtout de, par cette navigation entre différentes lectures du conte, de les confronter, de voir les écarts, les choix faits par chaque adaptateur, d'essayer de réfléchir aux raisons, hein, aux implications de ces choix, donc mener un travail d'interprétation, puis de revenir également au texte, ben, pour poursuivre cette navigation entre les œuvres. Voilà. Alors, par exemple, il y a eu un travail sur, en particulier, une séance sur le sort réservé aux sœurs de la Belle dans les différentes adaptations. Alors, il se trouve, bon, donc dans le conte, elle a deux sœurs qui sont des teignes, qui sont affreuses avec elle, bon, qui la malmènent, etc. Chez Cocteau, on retrouve les deux sœurs. Chez Gans, on retrouve également les deux sœurs, toujours aussi désagréables. Et puis chez Disney, on a constaté avec les élèves qu'il n'y avait plus ni frères ni sœurs. Et alors, au-delà du simple constat de ces différences, on s'est interrogé bien sûr sur ce que ça impliquait. Et en l'occurrence, chez... Le rôle des sœurs se borne pas de la figuration, c'est-à-dire qu'elles sont, on va dire, dans l'apologue, hein, de Madame le Prince de Beaumont, qui célèbre les vertus spirituelles, le côté désagréable des deux sœurs. Enfin, ces deux sœurs incarnent une forme de difformité morale, on va dire, qui fait écho à la difformité physique de la bête. Et d'autre part, ces deux sœurs font subir à la Belle une forme d'ostracisme et d'exclusion dont la bête elle-même est la victime. Donc il y a une sorte de communauté de destin entre la Belle et la bête, hein, que manifeste le titre d'ailleurs, qui se dessine grâce au rôle, à la présence des deux sœurs. Voilà. Même chose sur un autre aspect. Je me dépêche. Même chose sur les raisons de la métamorphose de la bête, hein, où les versions, où les explications apportées diffèrent d'une version à l'autre. Donc dans le conte, comme dans l'adaptation de Cocteau, le prince qui se transforme en bête est en fait innocent et victime de la méchanceté de fées. Bon, voilà. Chez Gans et chez Disney, en revanche, il est coupable. Et sa transformation, sa métamorphose, c'est le châtiment mérité d'une transgression ou d'une faute. Et là aussi, ça change les choses, ça change la réception du personnage, ça change la moralité même. Et donc, voilà, cette approche intégrative de l'œuvre littéraire d'origine, des illustrations et des films avait pour but de naviguer, hein, entre les différents objets et de réfléchir, de nourrir l'interprétation et le débat interprétatif qui a été mené en classe. Voilà, je cède la parole à Elisabeth qui va présenter le troisième temps de...
Donc, je suis PEMF, j'enseigne donc dans une école d'application dans un quartier assez populaire de Nîmes. Et quand Aldo est venu me présenter son projet, bon, ça fait écho parce que j'avais envie aussi de partir. Je fais du théâtre avec les élèves, ils ont l'habitude de faire du théâtre dans ma classe sous la forme d'improvisation. Donc j'expliquerai, j'espère, après... mon travail. Par rapport à l'évaluation du projet, j'ai pas assez de recul encore, hein, pour en parler. Ce que je peux voir, c'est que les élèves sont très motivés, que ça a créé une grande, grande dynamique en classe, le fait d'avoir apporté ces différentes dimensions. Donc en fait, ce projet se situe entre une activité de théâtre, hein, j'en fais aussi du théâtre, hein, en lecture, mais là, je leur ai demandé donc d'improviser à partir du thème, et tout naturellement, ça a été le thème de La Belle et la Bête. Alors j'ai essayé de raccrocher un petit peu avec, par rapport au nouveau socle commun, Et là, on s'aperçoit, donc toujours pareil, hein, les disciplines qui vont essayer de faire en sorte que l'élève atteigne une compétence. Donc j'ai repéré les différents domaines, donc le domaine 1, le domaine 2, le domaine 3, le domaine 5, et chaque fois on a justement ces relations entre l'oral, l'écrit, les différents langages finalement. Donc notre projet s'inscrit véritablement dans une portée pour l'année prochaine. Alors en premier, j'espère que la vidéo va marcher. Donc c'est les langages pour penser au communiqué. Ici, je suis partie avec les élèves, comme j'ai l'habitude de travailler avec eux, sur deux projets. Le premier projet, ça a été une demande de nos collègues de maternelle. Enfin, une demande, j'ai vraiment sollicité aussi. Donc c'était de donner une adaptation du conte de la Belle et la Bête, mais adaptée à des élèves de maternelle. Du coup, je me suis servie d'histoires en cascade, hein, qui finalement donnent une trame aux élèves. Alors cette trame, c'est des connecteurs de temps, c'est des petits mots comme ça, de liaison, parce qu'ils se sont aperçus que les maternelles, les élèves de maternelle, eh bien, il fallait que ce soit simplifié pour eux. Donc ils sont partis en improvisation, et puis là, il y a eu un retour collectif.
Ce qui était drôle à vivre dans ce projet, qui n'était pas pensé comme un projet au début, c'est que les choses se sont dessinées en cours de route, sans qu'il y ait eu, en tant que projet, hein, de grosses planifications menées. Et les choses se sont faites un peu en chemin. Et ce qui était intéressant, c'est que ce travail d'écriture que fait, je crois, Elisabeth chaque année, ce travail de théâtre que fait Elisabeth chaque année, le thème et le sujet, donc ce sont les élèves qui ont, d'après ce qu'elle m'en a dit, hein, qui ont décidé que ça porterait sur la Belle et la Bête. C'est-à-dire qu'après avoir été, après avoir échangé à l'occasion du questionnaire avec leurs aînés, après avoir reçu les réponses de leurs parents, les élèves à leur tour vont devenir des passeurs de ce texte du patrimoine auprès de plus jeunes qu'eux. Et cette dimension intergénérationnelle était intéressante.
Voilà, donc là, c'est des courts extraits, en fait. Hein. Donc là, c'est le début du conte. Et donc là, c'est une improvisation qui a été faite par les élèves. Donc plusieurs groupes sont passés, c'est le début, on a travaillé sur le début. Seulement là, il y a toujours un retour, c'est-à-dire qu'ils sont en improvisation, ils passent dans le grand groupe. Et là, évidemment, on va entendre maintenant le retour par rapport à ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si c'est le même groupe, mais voilà ce que ça donne.
Alors, le retour maintenant pour ceux qui viennent de passer. Hugo.
Alors moi, je trouvais que c'était super bien joué, une bonne improvisation. Par contre, pour ce qu'elle avait dit la maîtresse, je trouve que c'était un peu long. On devait peut-être un peu plus rentrer dans les détails.
Bah oui, c'est vrai, mais bon, si c'est pas très facile, parce qu'on a essayé de faire un résumé assez cool. Quand je parlais à la bête sur des improvisations, parfois je me mettais, parce qu'on avait fait une petite feuille avec le narrateur et tout, et parfois je me mettais à la place du narrateur pour faire un petit bref en plus rapide.
Merci. D'autres remarques encore à quoi?
Moi j'ai adoré cette histoire, même si Hugo a raison que c'était un peu long, vous êtes rentré dans les détails, mais c'était trop bien, j'ai adoré, un seul mot.
Les autres ne sont pas trop d'accord d'ailleurs, hein, Cobb, il a été le seul, hein, parce que c'était très très long en fait. Donc voilà, donc là le projet, ce projet c'était maternelle. Donc du coup, dans le projet de maternelle, il fallait adapter. Et donc j'ai recentré la question en disant c'est bien beau, on a travaillé en improvisation, maintenant est-ce que c'est adapté au maternelle? Et donc la question a été posée.
Moi je trouve que vous avez très bien joué cette pièce de théâtre, mais par contre, je pense que pour les maternelles, vous avez dit beaucoup de mots difficiles pour eux.
Aussi pour les maternelles, il faudrait que Baptiste, que tu ne parles pas pendant que Hugo et Loris fassent leur action, parce que comme j'ai dit, j'étais vraiment désorientée.
Les acteurs?
C'est juste pour, en fait, pour répondre à Mathias, c'est juste pour qu'il l'explique, quoi. Ce qu'on fait, parce que si par exemple on fait quelque chose de mal, quand on fait mal à Mime, lui ça va vous permettre de mieux comprendre.
Alors nous on n'a rien compris, hein, je vous rassure, en plus par rapport au son, mais c'est simplement pour vous, voilà, pour vous montrer que chaque fois il y a ce retour et il y a la justification avec le groupe qui est passé. Et c'est extrêmement enrichissant. Deuxième donc création, la création de fin d'année. Alors là, ils se sont complètement lâchés. Et là, je travaille beaucoup en lien avec la rédaction, le travail d'écriture. Donc d'abord, ils sont partis. Les personnages les ont vraiment passionnés. Donc on a décidé de faire intervenir les personnages. Ils m'ont proposé ça. Je vous assure que je ne suis pas pour grand-chose parce qu'en fait, ce travail les a tellement motivés qu'ils travaillent à la récréation, ils travaillent chez eux. Ça crée une dynamique pas possible. Donc en fait, les personnages vont raconter l'histoire de la Belle et la Bête, leur version. Donc ils sont partis, ils ont travaillé par deux ou trois, toujours pareil, passage au grand groupe. Et après, en classe, une fois que les improvisations ont été montrées, eh bien il y a un travail d'écriture de suite après. Donc voilà ce que ça donne, par exemple, une improvisation qui a été faite par Bastien. Donc Bastien, si je me rappelle bien, il parle et c'est une des sœurs. Voilà son improvisation.
Un jour, papa est revenu. Il nous a raconté une histoire horrible. Alors moi et Anne-Marie, comme on a vu que Miss Potager ne pleurait pas, on lui a crié dessus. Et puis elle a commencé à dire « Moi, je pleure pas. Moi, parce que je suis pure. Moi, je vais aider papa. Je vais le sauver. Je vais aller à sa place car moi... » Alors on en a eu marre. On lui a crié dessus. Et quand elle est partie avec papa, on a chanté et on a piétiné son chant de salade, et on a chanté « Belle, belle, son potager vont devenir de la purée, de la pâtée, vont venir manger !»
Donc, retour en classe. Et retour en classe, voilà le fameux texte. Et alors, j'ai remis quand même pour que vous voyez. Alors là, dans le retour en classe, il écrit, mais il cède aussi des copains. C'est-à-dire que certains peuvent s'emparer de la création et écrire par rapport à ce qui s'est passé. Lui, il se trouve qu'il a voulu écrire, mais qu'il a aidé, et il a été aidé par deux copains. Et on voit que le texte continue d'ailleurs, parce qu'il a été... voilà. Alors, je vous remets le texte.
Un jour, papa est revenu. Il nous a raconté une histoire horrible. Alors moi et Anne-Marie, comme on a vu que Miss Potager ne pleurait pas, on lui a crié dessus. Et puis elle a commencé à dire « Moi je pleure pas, moi parce que je suis pure, moi je vais aider papa, je vais le sauver, je vais aller à sa place car moi... » Alors on en a eu marre, on lui a crié dessus. Et quand elle est partie avec papa, on a chanté et on a piétiné son chant de salade. Et on a chanté « Belle, belle, son potager vont devenir de la purée, de la pâtée, vont venir manger. »
Voilà, donc deux choses qui ont changé. C'est-à-dire qu'elle n'est pas pure, mais qu'elle a le cœur pur. Et puis la chanson qui a été modifiée et le texte continue. Donc après, il se déroule et il est assez long. Donc après, d'autres petits exemples, toujours pareil. La création et puis les élèves qui racontent donc, le retour en classe. Donc j'ai mis les deux pour que vous voyez. Alors là, la petite fille raconte, mais en fait, c'est quatre garçons qui ont pris la suite. Elle s'est complètement dépossédée, elle, de son texte.
Alors que j'allais partir au marché chercher une courge, la pluie m'a surpris. Mais j'ai pris mon balai, je me suis envolée et la pluie m'a transportée dans une cour de château. Puis j'ai voulu m'amuser un peu. Je me suis déguisée en vieille mendiante.
Voilà, donc toujours pareil, là, le texte est voilà, la vieille mendiante, la fée, la sorcière, en fait, ils ne sont pas d'accord. Le texte a été modifié. Voilà, après, encore une fois. Et le dernier, donc c'est la fameuse Rose qui va intervenir, qui est rentrée finalement comme un personnage alors qu'on ne l'a jamais évoqué. Et finalement, ça leur plaît beaucoup. Donc là, je vous laisse... voilà.
Alors moi, je suis la Rose. Pendant que mes parents étaient en train de sécher dans ces vieux pots. De pommes, bien sûr. Et j'étais plus belle que toutes les autres, évidemment. Un jour, un vieux monsieur descendit de son cheval. Il essaya de m'arracher. Je ne voulais pas, mais il a insisté. Alors j'ai sorti mes armes fatales, mes épines.
Voilà, ça a été très apprécié. Les armes fatales, pour eux, je les retrouvais après dans toutes les rédactions et dans tous les exercices d'orthographe. Voilà, les armes fatales. Donc le texte a changé. Ils n'ont pas la vidéo, c'est vraiment la mémoire, la mémoire auditive. Donc après des versions différentes, j'ai pas les textes, mais pour vous montrer des versions différentes, là on est la demande en mariage. Donc des versions différentes de la demande en mariage. Le travail d'écriture, je ne l'ai pas encore recueilli, mais je vous propose de le regarder.
Je viens de sortir de table. La bête m'a dit qu'elle voulait m'épouser. Quelle horreur ! Non mais, comment voulez-vous que j'épouse une bête aussi affreuse que ça ? C'est impossible !
Voilà, à la concentration. La deuxième.
Quand je sors de table, la bête me demande un mariage. Père, quelle horreur! En plus, ces poils! Oh, c'est dégoûtant, c'est affreux! En plus, ils sont mauvais! Oh, pourquoi épouser une horreur? Oh, je préfère épouser une poubelle, hein.
Ouais, la version différente, là. Alors lui, il a carrément osé.
Quand la belle, elle m'a demandé en mariage à la base, j'étais pas très content, avec plein de poils de partout. Mais au final, elle est un peu sympa. Elle est, même si elle est moche, elle est sympa. J'aimerais peut-être bien l'épouser.
Voilà, donc chaque fois, donc ces textes, je vais les recueillir, mais j'ai pas assez de recul encore pour voir. Donc après, ces improvisations, évidemment, moi, ça me met quelquefois un peu... Il n'y a pas tout, hein. Là, je vous ai mis des extraits des débuts. Et puis, il y a des improvisations qui sont un peu plus difficiles pour moi, parce que je ne sais pas ce que j'en fais. Donc, je vous propose d'écouter deux élèves qui ont improvisé, qui ont voulu improviser à deux.
La bête, quand je sors de table, elle m'a demandé de m'épouser. Non, mais allô, quoi? Oh my God! Son look affreux avec ses poils tout pourris. Ah non, mais il faut lui faire un relooking.
Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Belle. Moi, elle m'aurait demandé, j'aurais dit oui directement. Elle est si belle, si bonne.
Non, mais plus de la bouche.
Voilà, donc là, après, bon, par rapport au spectacle de fin d'année, je sais pas ce qu'ils vont écrire, est-ce que ça va être donné ou pas. Et juste pour terminer, je termine juste les 10 minutes qui me sont imparties, j'ai reçu un mail, j'ai une boîte professionnelle et réservée à mes élèves. Et là, un mail de Lilou, une de mes petites élèves, mais qui est très très timide en fait, mais qui écrit beaucoup, et qui m'a envoyé, je voulais laisser brut comme ça. Et je pense que ça résume un petit peu ce qui se passe. Même si on n'a pas assez de recul pour savoir comment va évoluer le projet. Voilà, c'était une petite fille qui... Voilà, j'ai corrigé quelques erreurs d'orthographe, mais pas le style. Oui, monsieur le prof de français, quand même, je ne voulais pas que non. Ça... Mais il y en avait très peu, d'ailleurs. Elle est très, très bonne en orthographe. C'est possible que j'en ai laissé... Voilà, quelques-unes. Donc voilà, 10 minutes. Alors, je peux le lire? On ne voit pas de loin?
Si, c'est bon.
Voilà, monsieur Chabanne, j'ai 10 minutes.
Il faudrait faire. Ouais. On discutera. Bon, allez-y. Si vous faites rire les gens, c'est bon.
Ça va. On va repasser des vidéos. Voilà, donc j'ai apporté quand même les petits cahiers, parce que je ne sais pas si on a parlé. Il y avait les petits
non,
cahiers. Chaque élève, en fait, a des. Un cahier. Et dans ce cahier, il y a justement le travail. D'abord, le travail de découverte qu'on a fait, qu'on a mené au début, sur le travail sur le titre, le travail sur les illustrations. Et après, c'est devenu le journal intime de la belle. Donc, cette belle va écrire. Et puis après, il y a la bête aussi qui arrive. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement libre. C'est-à-dire que je pars du principe que l'essentiel, c'est qu'ils écrivent. Donc le maximum, les erreurs d'orthographe donc, ne sont pas corrigées, sauf s'ils me demandent. Par contre, quand ça va être proposé et présenté à la classe de maternelle, c'est donc un moyen de communication. Et là, il y a évidemment les erreurs d'orthographe et la grammaire qui sera étudiée. Voilà. Et juste pour terminer, l'abeille et la bête, en ce moment, c'est l'abeille énerve beaucoup, beaucoup. Donc, il y a une parodie qui se met en place, c'est-à-dire que l'abeille est détournée. Et en fait, beaucoup d'élèves ont décidé d'inverser les rôles, c'est-à-dire que les sœurs de l'abeille sont extrêmement gentilles et l'abeille est très, très énervante et elle est méchante. Donc, c'est une autre parodie. Ils partent sur d'autres choses. Et voilà, c'est le seul truc un petit peu dans ce projet, c'est qu'il y a trop de choses et que, voilà, ça me demande beaucoup de travail.
Ouais. Voilà, oui, à côté de ce travail donc final d'adaptation théâtrale réalisé par les élèves, c'est vrai qu'il y a eu un travail d'écriture qui était très régulier et qui consistait donc à faire une écriture en jeu, c'est-à-dire que les élèves se mettaient à la place de la belle, pour rédiger son journal intime. Pas la totalité du conte, mais certains moments clés.
Ouais. Tout à fait.
Et ça a donné lieu après donc à des détournements parodiques, apparemment. Mais c'est très intéressant aussi. En fait, ils font leur travail d'adaptateur à leur tour. Et ce texte, donc un peu lointain, un peu éloigné, ils s'en sont vraiment, vraiment emparés.